Vous écoutez
RMC. RMC.
Allô, allô, allô,
allô.
Allô, Breaking Foot.
Le célèbre allô de Coach Courbis. Et le premier auditeur allô. Qui va nous accompagner, messieurs Mohamed et Pierre, c'est Franck qui nous a appelé, les supporters lyonnais. Salut Franck.
Salut Franck.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde.
Alors Franck, on va rappeler un petit peu la polémique du week-end. Évidemment, ouais. Ça a beaucoup fait réagir le monde du foot. C'est cette prise de bec entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. Tout cela est parti d'une interview en fait de Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Monde. Il avait proposé pourquoi pas une saison blanche, ce qui permettait à Lyon en fait de repartir en Ligue des Champions la saison prochaine. C'était une des pistes évoquées par le président lyonnais. Il y a une réponse du président marseillais Jacques-Henri Hérault dans le JDD. Il a dénoncé l'égoïsme et l'obscénité de Jean-Michel Aulas et réponse hier soir de ton président Jean-Michel dans Team Dugas.
Les avocats que j'ai consultés encore aujourd'hui vont attaquer en diffamation. C'est diffamatoire. On a voulu me faire passer pour quelqu'un qui se préoccupait du fait que l'Olympique Lyonnais ne jouerait pas peut-être la Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais on a oublié une chose, c'est que il reste 10 matchs, il y a 30 points à prendre. C'est encore possible de revenir. Qui joue la finale de la Coupe de la Ligue cette année contre le Paris Saint-Germain et qui peut accéder du coup à la Coupe d'Europe? Et si même on la gagne pas et que Paris la gagne, ça veut dire que le 6e, peut-être le 7e, va être européen. Qui aujourd'hui est qualifié en Champions League pour un match retour contre la Juventus? Vous croyez pas que j'ai plus intérêt que d'autres à finir le championnat et à finir les compétitions? C'est pas acceptable qu'on laisse penser que ceux qui m'attaquaient ne l'étaient pas. Et en fait, c'est exactement l'inverse. C'est ceux qui m'ont attaqué, y compris en diffamant, qui ont laissé penser que on était plus intéressé par le classement de Lyon que par l'intérêt général. Alors qu'en fait, c'est l'inverse.
Voilà les propos de Jean-Michel Aulas dans Team Dugas. L'histoire a pris une telle ampleur que Didier Quillot, le DG de la Ligue, et Noël Le Graët, le président de la Fédé, ont même lancé un appel au calme. Franck, toi, ce que tu dis en tant que supporter lyonnais, en tant que fan de foot surtout, c'est que oui, il peut être critiqué Jean-Michel Aulas, mais lui au moins, il propose des idées. C'est un peu ça. Hein.
C'est un peu ça. Bon, alors déjà, bonsoir tout le monde. Je voudrais dire une chose. Alors, prenez-le pas mal parce que c'est pas une chose que j'ai entendue à Breaking Foot. D'ailleurs, je passe souvent à l'antenne et je vous en remercie à Breaking Foot. Hein. J'en ai marre qu'on essaye de faire passer Monsieur Aulas un vieux gâteux, un béni oui. C'est un des présidents les plus intelligents de notre championnat. Moi, je lui fais entièrement confiance et croyez-moi que si Monsieur Aulas a balancé un truc comme ça, c'est pas innocent. Je pense qu'il a effectivement lancé une idée comme ça, aujourd'hui, qui peut nous dire ce qui va se passer? Parce que j'entends toutes les supputations comme quoi, dans 15 jours, on va reprendre les entraînements, dans 3 semaines, mais on ne peut pas savoir. Déjà, on ne peut pas savoir si le championnat va reprendre. Personne ne peut nous le dire si la pandémie va durer un mois et demi,
mais 2 mois. C'est pas mieux de se taire quand tu ne peux pas savoir, justement? Quand tu ne sais pas et que personne ne sait, c'est pas mieux de se taire?
Non, mais pourquoi vous dites ça? Il balance.
Non, c'est une question. Je te demande ton avis.
Eh ben, je vais vous répondre. Ça s'appelle anticiper. Anticiper.
Ah non, quand tu sais rien. Alors, quand tu sais rien, puisque tu viens de nous dire que personne ne peut savoir, pour moi, c'est pas d'anticipation. L'anticipation, c'est pas ça. C'est quand tu sais des choses, justement, et que tu peux imaginer différents scénarios possibles.
Après, Pierre.
Pour moi, l'anticipation, c'est ça.
Anticiper. Non, mais anticiper, ça veut dire prévoir ce qui va se passer dans l'avenir, donner des idées. On ne sait jamais, comme ça on ne sera pas pris au dépourvu. Par exemple, si on avait anticipé au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des masques et du reste, on ne serait pas pris au dépourvu. Et bien là, M. Aulas, il balance une idée, hein, et comme ça, si dans un mois et demi, 2 mois, il se passe quelque chose, et bien cette idée,
tu veux que je te dise, si je te rejoins, admettons que, ce qui n'est pas le cas, hein, je te le dis, mon avis, c'est pas le tien, mais imaginons que je te rejoigne dans ce que tu es en train de développer là. Tu penses pas que ça aurait été mieux que Monsieur Aulas, au lieu de le balancer, comme tu dis, le dise ou en fasse part ou fasse partager dans les collèges de présidents où il représente le football et la Ligue 1, plutôt que de le faire comme ça, de façon publique, dans un moment comme on vit en ce moment, honnêtement?
Mais de toute façon, je vais vous dire quelque
sur
chose.
La forme.
Qu'on vive un moment difficile ou pas difficile, à chaque fois que Monsieur Aulas y parle, il y a quelqu'un pour aller lui fermer son clapet et lui dire qu'il raconte des conneries. C'est ça qui m'énerve.
Ça, c'est autre chose. Je peux effectivement te rejoindre là-dessus.
Tout le monde a plongé dedans. Alors, le premier, c'est Payet qui a répondu. Lui aussi, il aurait pu
Franck, oui. Juste, je vais te répondre.
Je vais te laisser répondre parce qu'on a bien compris ton message et on t'entend souvent dans Breaking Foot et on est très heureux que tu puisses librement t'exprimer chez nous. Alors déjà, je suis pas d'accord avec toi sur un point. Personne ne dit que Jean-Michel Aulas est un papy gâteux, etc. Tout le monde reconnaît que c'est l'un des plus grands présidents de la Ligue 1, l'un des plus grands dirigeants européens, et tout le monde reconnaît son talent et son intelligence. Si Jean-Michel Aulas est là depuis 33 ans, c'est parce qu'il a un réel talent. En revanche, c'est pas un hasard. En revanche, Franck, qu'est-ce qui a pu marquer les gens? Qu'est-ce qui a pu choquer les gens? De un, tu parles, je vais te retenir sur le fond et la forme. Sur la forme, cette déclaration, elle tombe, je crois, vendredi matin, c'est ça, ou jeudi soir très tard. On est en début de la crise, le président Macron s'est à peine exprimé, on a les premiers décès en France, etc. Je peux comprendre, Franck, que l'idée, comme tu le dis, est une idée, mais le timing, ça a peut-être marqué les gens et ça a peut-être choqué les gens. Je connais bien Jean-Michel Aulas, je connais même très bien. Ça a pu m'étonner de voir une déclaration d'un des présidents les plus expérimentés du football français aussi rapidement. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le football n'a pas sa place. Aujourd'hui, le football n'a pas sa place dans les débats, j'ai envie de dire, à la télévision ou dans la presse, etc. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait de faire un breaking, demain, on va s'arrêter, on va arrêter de parler de football, on va faire une petite pause, c'est essayer de donner une heure de distraction. Mais les conflits d'intérêts sur le football n'ont pas leur place. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, sur le fond, Franck, est-ce que c'est une idée? Parce que la façon dont l'exprime Jean-Michel Aulas, t'as l'impression quand même que c'est un truc qui est bien en place, que c'est un truc de fond et qui est vraiment ça, c'est avancé, etc. Non, l'équité sportive. J'ai regardé, Franck, il y a huit équipes en Ligue 2 qui peuvent prétendre à monter en Ligue 1. Huit équipes. Qu'est-ce qu'on fait de ces huit équipes-là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de l'Olympique de Marseille qui s'est battu pendant 30 journées pour aller en Champions League? Qu'est-ce qu'on fait de ces équipes qui sont intéressantes, qui se sont battues pour aller en Champions League ou en Ligue Europa, comme le Stade Rennais qui a fait une saison formidable avec Julien Stéphan? L'équité, c'est important. Aujourd'hui, le classement, les ambitions personnelles des uns et des autres n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui en France ou avec l'équité et l'égalité. Il faut terminer la Ligue 1, et si la Ligue 1 ne se termine pas, eh bien il faudra prendre en ligne de compte le dernier classement de la Ligue 1. C'est tout, ça s'appelle l'égalité, ça sera fait pour les supporters rennais, les supporters lillois et les supporters marseillais, les parisiens. Pourquoi on retirait un titre au PSG? Pourquoi? Alors que le PSG, ça fait 30 matchs qu'ils se battent, Franck. Cette idée-là, aujourd'hui, elle n'a pas forcément sa place dans le timing et sur le fond. Parce qu'il faut respecter dans le sport une chose, c'est l'équité et l'égalité.
Voilà, Franck, la réponse de Mohamed. Merci d'être venu au 32-16. On t'attend de nouveau dans Breaking Foot très rapidement, hein, évidemment. Voilà, Franck qui vient de nous quitter. Mohamed, moi, j'étais entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc voilà, j'ai même pas un mot à rajouter. Je voudrais juste, Pierre et Mohamed, qu'on accueille Laurent qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Il est supporter niçois. Et il va plutôt dans le sens inverse de Franck. Bonjour, lui, il est outré par les déclarations qu'a pu tenir Jean-Michel Aulas tout au long du week-end.
Bonsoir.
Salut, Laurent.
Ça va bien ?
Salut Laurent,
ça va et toi ?
On t'écoute, écoute, nous ça va, mais on aimerait que ça aille mieux, mais on s'accroche.
Bon, bah écoute, donc, alors déjà pour faire très court sur ce que, par rapport à l'équipe sportive, moi je pense que la solution la plus juste, ce serait d'arrêter le classement après trois quarts de championnat tel qu'il est là, comme on le fait dans certains grands prix de Formule 1, quand les choses à quelques tours de la fin, quand il y a des situations un peu spéciales, on n'arrête pas le classement en octobre, on l'arrête en mars. Pour moi, ça serait ça le plus juste. Mais c'est pas le propos le plus important. Pour revenir aux déclarations du président Aulas, si la situation n'était pas telle qu'on la connaît en Europe, dans le monde, enfin, bon, c'est une situation catastrophique, ça serait une déclaration de plus du président. Il le fait 3-4 fois par an, on a l'habitude, il le fait très bien, il est très fort avec les mots, il n'y a pas de problème. Là, ce qui m'a vraiment choqué, d'abord, c'est la violence des propos. On peut diviser ça en deux. La première partie, la réponse au président marseillais était outrancière. C'est vraiment hallucinant d'entendre ça, alors que les gens ont quand même besoin, tout sauf d'agressivité. On ne va pas rentrer dans le sentimentalisme, mais on a besoin un peu de compassion, de gentillesse, et t'entends ce genre de propos qui est complètement hallucinant. Il a été trop loin, donc il passe dans Tim Dugas, parce que ça, évidemment, il s'est rendu compte que tout le monde qui avait un tollé. Donc je l'écoute dans Tim Dugas. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il ne s'excuse pas, alors il n'aurait pas sur le fond, parce que sur le fond, on ne lui demande pas, mais au moins sur une certaine violence, il aurait pu un peu montrer un petit peu de quelques excuses, il ne le fait pas. Mais en plus, il se fait passer pour une victime. Ça, c'est très fort. Alors ça, il le fait toujours très bien. qui est encore plus exaspérant. Et il en profite pour faire l'apologie du club lyonnais en parlant de la Youth League, du football féminin, etc., ce dont les gens n'ont rien à faire, surtout pas en ce moment. Il en profite pour dire que ça va très bien, que le club lyonnais est en progrès. Donc du coup, j'ai regardé le classement de ces 20 dernières années. C'est le classement le pire de l'Olympique lyonnais à cette époque de l'année, ces 20 dernières années, à savoir 7e. Donc tout ça est complètement faux. Mais pour terminer, pour conclure, et le pire, c'est après ce qu'il dit à la fin de son intervention, quand il parle du fait que l'Olympique lyonnais va s'en sortir parce qu'il est bien géré, donc va sortir de cette crise. Ça, j'en doute pas, parce qu'on ne peut pas lui retirer une chose. C'est un excellent gestionnaire et un excellent président. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qu'il dit sur les autres clubs, c'est ça qui m'a fait le plus bondir. Ça a l'air de rien, mais au lieu de dire « j'espère que les autres clubs vont s'en sortir », ce qui est la moindre des choses par les temps qui courent, il te dit « je ne sais pas si les autres clubs vont s'en sortir ». Ça, ça veut tout dire. C'est cette petite phrase, moi, qui m'a fait bondir. Je ne sais pas, et puis il l'a répété deux fois, hein. Je ne sais pas si les autres clubs vont s'en sortir, mais nous, on va s'en sortir. C'est toujours pareil.
Il montre toujours une espèce d'animosité, Laurent,
par ces temps qui courent. C'est ça qui me fait le plus mal, en fait.
Laurent,
vous voyez,
tu viens de dire quelque chose d'extrêmement intéressant, et je t'en remercie. Laurent, je vais te donner un chiffre pour tous les auditeurs. Si la Ligue 1, chaque match de Ligue 1 qui ne se jouera pas, ça va coûter 21 millions d'euros au football français. Il faut, bien évidemment, hormis le fait que la crise sanitaire va continuer, et on espère qu'elle ne durera pas, rester chez vous, parce que plus on reste chez nous, moins on a de contacts et moins la pandémie va évoluer. Chaque match qui ne se jouera pas, c'est 21 millions d'euros. Il y a des clubs qui vont être dans une situation difficile. Je regardais un article tout à l'heure, il y a un club de 5e ou 4e division anglaise qui a déjà fermé, qui a déjà mis 60 personnes au chômage. Il faut terminer cette Ligue 1 si, bien évidemment, l'État nous le permet, si le gouvernement nous le permet, si la santé publique nous le permet, parce qu'il y a aussi des questions d'argent. Il y a des clubs de Ligue 2 qui ont besoin que la Ligue 2 se termine. Il y a des clubs de Ligue 1, j'ai pas envie de citer de nom parce que sinon on va me dire oui, mais notre club est peut-être dans une situation financière mauvaise. Non, il y a des clubs de Ligue 1. Il y a des clubs de Ligue 1, il faut le dire à tout le monde, à tous nos éditeurs sur RMC, qui ont besoin de l'argent des 10 derniers matchs de ce championnat. Imaginez qu'est-ce que vont dire les diffuseurs si la Ligue 1 ne se termine pas et la Ligue 2. Qu'est-ce que vont dire les partenaires? Qu'est-ce que vont dire les abonnés? Il y aura des recours, ça va coûter beaucoup d'argent à notre football. Il faut que notre championnat se termine coûte que coûte. Et bien évidemment, il faut qu'il se termine si l'État nous le permet, si cette pandémie s'arrête. Et il faut prier chaque jour pour que ça se termine le plus rapidement et croire en nos chercheurs et en nos soignants.
Merci Laurent d'avoir été avec nous au 32-16. Tu reviens quand tu veux, évidemment, dans Breaking Foot. Tu es le bienvenu, c'est surtout dans cette rubrique Allo Breaking.
Breaking quoi, Benoît?
Breaking Foot.
Breaking quoi,
c'était un peu dur.
Breaking quoi mal, Breaking Foot.
Excusez-moi, c'est la première, ça ira mieux pour les prochaines. Un invité dans un instant. Ah, ça vous fait rire. Oui, mais en tout cas, c'est l'arrosant arrosé. C'est comme ça, j'aime bien vous taquiner et du coup, ça me tombe dessus. On va accueillir Benjamin Lecomte, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, le gardien de but de l'AS Monaco. Il sera avec nous, on pourra l'entendre sur sa situation personnelle. Imaginez, il est confiné avec deux enfants en bas âge. Oh l'horreur!
On va en parler
avec lui. À tout de suite sur RMC.
C'est pire, il va vouloir revenir au travail.
Un dans chaque gant.
Exactement.